Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont trouvables sur la page Radicaux Libres du site radioalpa.com. Une semaine encore riche en rebondissements, on aurait pu vous parler par exemple de la relaxe pour Jean-Paul Delescot, secrétaire général de l'UDCGT 59, qui était poursuivi pour apologie du terrorisme et provocation à la haine antisémite, à la suite d'un document, d'un communiqué syndical qui avait été fait en octobre 2023 à la suite des attaques du Hamas contre Israël du 7 octobre 2023. Un jugement en première instance l'avait condamné, un jugement en appel le relaxe, parce que de fait il apparaît qu'il est difficile actuellement de combattre les idéologies qui sont présentes dans le gouvernement israélien. Une loi en France devrait assimiler bientôt l'antisionisme à l'antisémitisme. Allez, roulez jeunesse, les mots n'ont plus aucun sens. On traite tout le monde d'antisémite. Tout le monde à LFI l'est, hein, faut le savoir. Les antifascistes sont devenus les fascistes. Voilà, je mélange tout, je te fais un gros gloubi-boulga. Et puis l'intérêt, c'est quoi? Ben, l'intérêt, c'est de nous détourner de ceux qui sont vraiment les ennemis de la démocratie. Ben, par exemple, tous ceux qui seraient pour le fascisme. Et justement, à ce propos, on aurait pu vous parler également de la mort de Quentin Derenque, militant d'extrême droite, victime d'une rixe le 12 février 2026 à Lyon. Un documentaire intitulé « Terrorisme d'ultra-droite » devait passer sur Arte à la fin du mois de février. Finalement, il passera à la fin mars à la télé, après les élections. Ah, comme ça, bah, vous voterez, mais pas forcément tout à fait en conscience. Mais le documentaire en deux parties qui permet de connaître un petit peu mieux les objectifs et valeurs de l'extrême droite, dont certains membres peuvent utiliser l'arme du terrorisme pour parvenir à leur fin, est disponible dès maintenant sur le site de Arte, arte.tv. Alors n'hésitez pas à le regarder, puis à donner l'information à tous ceux qui renvoient dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Pour également savoir plus sur la manifestation des gentils nazis, la manifestation qui s'est si bien passée selon une journaliste de France Info le 21 février 2026 à Lyon, allez faire un tour sur le compte Blue Sky de Ricardo Parera. Pas Pereira, hein. Parera, P-A-2-R-E-I-R-A, qui est un photographe engagé qui décrypte les signes de l'extrême droite. Il possède également un site, Ricardo Parera, qui s'appelle indextrême.fr. Indextrême.fr, en fait, c'est un index de l'extrême, ça n'a aucun rapport avec les hindouistes, les nationalistes hindouistes qui sont à la tête de l'État indien. Donc, sur le compte Blue Sky de Ricardo Parera, eh bien, dans un fil qui date du début de la semaine, il recense les signes et sigles fascistes et nazis qu'il a pu observer lors de la manifestation du 21 février. Oui, on parle bien de fascisme et de nazisme, des idéologies propagées notamment par les brebis galeuses présentes sur les listes municipales du RN, de Reconquête et de l'UDR de Ciotti. Oui, des idéologies fascistes et nazis, c'est-à-dire qui recommandent qu'une partie de la population est un petit peu en trop, qu'il faudrait s'en débarrasser et qu'il y a une supériorité de certains sur d'autres. Le nationalisme et le suprémacisme sont des valeurs qui sont propagées par le RN Reconquête et l'UDR de Ciotti. Et parmi ces brebis galeuses, eh bien, elles sont repérées par le site lesjours.fr qui fait le boulot depuis des mois, voire des années, mais aussi sur Street Press, Luma, Libération, etc. À se demander, vu le nombre de brebis galeuses, s'il n'y a pas un problème avec l'ensemble du troupeau. On aurait pu vous parler également de la guerre. Trump et Netanyahou ont besoin de détourner l'attention de leur casserole judiciaire. Rappelons que Trump est empêtré dans les dossiers Epstein et qu'au niveau intérieur, la vie des États-Unis ne s'est pas du tout améliorée comme il l'avait promis. Et pour Netanyahou, avant l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, il avait des procédures pour corruption aux fesses. Pour ce dernier, la guerre éternelle repousse les actions de la justice, même si Netanyahou n'a pas pu faire reporter indéfiniment son témoignage devant les enquêteurs. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à chercher le documentaire Bibi Files Bibi, c'est le surnom de Benjamin Netanyahou. Un documentaire édifiant sur ce qui se passe en Israël actuellement. Et puis, n'hésitez pas à lire Times of Israel. Il existe une version française de ce journal qui nous donne des informations sur Israël, mais aussi sur l'ensemble du Moyen-Orient. C'est très intéressant puisqu'on n'a pas forcément les mêmes sur les télés, les radios et les journaux en Occident. Et puis, bien sûr, si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas à aller sur le site de la version anglaise du journal Haaretz, qui est un journal plutôt de gauche, mais qui fait un boulot de journaliste. Ouais, ça change un petit peu du JD News, ça change un petit peu de la France catholique. Cette semaine, la propagande a encore beaucoup d'adeptes dans les médias. Vous pourriez dire, et toi alors ? Eh bien, à ma décharge, j'avoue clairement d'où je parle. Je préfère la démocratie à la République, je préfère le socialisme au libéralisme, je préfère l'antifascisme au fascisme. Rien d'insidieux dans cette profession de foi, j'ose espérer qu'elle est à peu près claire. Mais là, je vous parle de ces médias qui s'affirment neutres, comme France Info. Et pourtant, le traitement d'une même information n'est pas du tout la même quand France Info parle des actions iraniennes et des actions israélo-états-uniennes. Par exemple, quand un bilan humain est donné par les autorités iranienne, les journalistes précisent que c'est impossible à vérifier. Ça n'est jamais le cas quand le bilan vient des autorités israéliennes et états-uniennes. Et pourtant, France Info s'est déjà fourvoyé en remettant en cause les chiffres des victimes quand ils venaient de Gaza. Par exemple. Autre exemple, les frappes iraniennes semblent être hasardeuses car les cibles ne sont pas toujours énoncées. Par contre, pour les actions du gouvernement d'extrême droite religieuse au pouvoir en Israël, les frappes au Liban sont toujours associées au Hezbollah, ce qui les justifie de fait. Les précautions oratoires sont aussi très utilisées pour désigner la présence des troupes israéliennes au Liban. On parle d'incursion, de troupes au sol, de présence au sol. Et ça sert surtout à ne pas dire invasion, ce qui de fait est le terme pour une armée étrangère qui passe une frontière. Et ça va continuer toute la guerre. Et la guerre, elle n'est pas tout à fait finie. Mais finalement, on a préféré encore vous parler des municipales.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Alors, on aurait pu vous parler du Mans, mais non, ce coup-ci, on va laisser ça de côté parce que nous revoilà à Ungersheim, dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse, où deux listes se présentent aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Ensemble pour Ungersheim et Votre Voix pour Agir, notre transparence pour réussir. Nous sommes de nouveau avec Jean-Claude Mensch, le maire actuel, et qui l'est depuis un certain temps, qui se présente lui-même.
Je m'appelle Jean-Claude Mensch. Maire de la commune d'Ungersheim depuis 1989, ça fait la 37e année, 6 mandats. Et puis, nous avons développé ces 3 derniers mandats une démarche de transition écologique, enfin un programme qu'on appelle 21 actions pour le 21e siècle, qui s'appuie sur 3 grands thèmes qui sont la démocratie participative, ou alors ce qu'on appelle aussi autrement l'autonomie intellectuelle, la souveraineté alimentaire et puis l'indépendance énergétique.
Jean-Claude Mensch a déjà déroulé donc le sommaire de l'entretien. Un entretien qui tourne autour de l'autonomie. Une autonomie pour préparer l'après-pétrole, car Ungersheim est engagé dans un programme de transition dont la chronologie nous fut présentée la dernière fois. Nous avions commencé à parler d'énergie, puisque la commune d'Ungersheim cherche à ne plus dépendre des énergies fossiles. Aussi, elle produit son énergie surtout à base de solaire, avec des panneaux posés notamment sur les bâtiments publics et aussi une unité de méthanisation. Plusieurs des sources énergétiques appartiennent à la commune ou à des associations. De fait, l'autonomie énergétique recherchée passe par la création de communs. C'est-à-dire, pour reprendre la définition communément acceptée pour le mot commun, je cite, « Les biens communs ou tout simplement communs sont des ressources gérées collectivement par une communauté. Celle-ci établit des règles et une gouvernance dans le but de préserver et pérenniser cette ressource. » Autre définition que je pioche sur le site des communs, lescommuns.org. On peut aussi définir les biens communs comme la recherche par une communauté d'un moyen de résoudre un problème en agissant au bénéfice de l'ensemble de ses membres. On est bien loin de l'égoïsme revendiqué par les partisans du libéralisme économique, puisque dans le cadre des communs, les valeurs portées sont l'équité, la pérennité et le service rendu à la communauté, et non pas le service rendu à quelques-uns qui finiront les plus riches du cimetière grâce à l'accumulation de pouvoirs, de pognon, de... tous à avoir toujours plus. Cette idée de commun participe à une économie socialiste. Cette économie que devraient défendre les Faure, Gage, Hollande et compagnie, puisqu'ils assurent être du parti socialiste. Pour en savoir plus sur l'idée de commun, allez donc voir sur le site dont je viens de parler, lescommuns.org. Tout simplement. Dans les propos de Jean-Claude Mensch, on peut voir que le mix énergétique renouvelable est de rigueur. On ne compte pas sur une seule source énergétique. C'est pourquoi Ungersheim aide ceux qui veulent augmenter leur autonomie énergétique, par exemple en fabriquant des éoliennes. Mais pas les géants qui peuvent atteindre 250 mètres, dont on ne sait pas quoi faire des pales en fin de vie. Non, non, on écoute Jean-Claude Mensch sur le sujet.
En tant que commune, est-ce que vous avez apporté des aides pour les habitants, pour vos artisans, la zone commerciale, etc. Est-ce que vous avez été proactif, comme on dit, en ce qui concerne l'énergie ?
En ce qui concerne l'énergie, il y a une association qui a été créée il y a maintenant près de 10 ans pour la promotion des énergies renouvelables, qui fait la promotion au niveau des habitants et qui prospecte des entreprises pour développer du photovoltaïque, toujours sur de grandes toitures des entreprises, met à disposition des petites installations chez les particuliers gratuitement, des compteurs, voilà, juste à brancher pour leur montrer le bien fondé, la rentabilité de l'opération. Voilà, il fait la promotion. C'est une association qui est portée par la commune, à laquelle nous avons cédé une installation photovoltaïque qui fonctionne, donc opérationnelle, de 10 kilowatts et qui donc leur assure une entrée d'argent annuelle qui permet de fonctionner. Et en plus, on accorde une petite prime de 400 euros à toute installation photovoltaïque ou solaire thermique.
Alors j'avais lu également que vous aviez des éoliennes, mais des éoliennes un peu particulières puisqu'elles ne viennent pas forcément de grandes entreprises, mais plutôt qu'elles avaient été faites très localement, même carrément sur la commune.
Il s'agit d'éoliennes domestiques, c'est de petits engins qui sont fabriqués manuellement. On appelle ça les éoliennes pigottes. C'est un Écossais qui est à l'origine, qui est le créateur et puis le développeur, avec des pales en bois. Voilà, c'est très, très artisanal, mais ça fonctionne, Donc, ça peut être installé dans un jardin et ça permet d'apporter une énergie renouvelable qui n'est pas négligeable, mais qui est insuffisante, étant donné que la plaine d'Alsace, enfin, du moins aux endroits où nous vivons, elle est très peu ventilée. Par contre, on a fait installer une autre éolienne de 20 kW, pour le coup, mais jamais les grandes, c'est pas des grandes, qui a été largement subventionnée. Sinon, bien sûr, on l'aura pas fait, et qui sert de prototype. On est toujours encore en phase d'expérimentation et on commence à 20 kW d'éolien, ça représente en matière de production un peu plus que la moitié de 20 kW de photovoltaïque, voyez. Donc pour l'instant, on a ce résultat-là qui n'est pas probant, mais qui vient rajouter un appoint renouvelable qui est intéressant puisque ça fonctionne aussi quand il n'y a pas de soleil et la nuit également. Donc celle-là, elle est installée, enfin les deux sont installés au niveau du jardin maraîcher, au niveau de la ferme municipale, qui apporte cet appoint et puis qui nous permet d'être autonome au niveau de la ferme.
Les éoliennes Pigotte, du nom d'un Écossais, Hugues Pigotte, qui a développé la construction d'éoliennes domestiques avec des matériaux simples et souvent de récup. Des éoliennes qui sont fabricables, je crois pas que le mot s'existe, mais tant pis, et réparables surtout par tout un chacun. Loin des productions industrielles nécessitant du matériel et une expertise qui nous oblige à faire appel à des grosses boîtes. Les éoliennes Pigotte sont un bon complément de la production d'énergie en solaire. Pour en savoir plus, il existe carrément un réseau français baptisé Tripalium qui possède un site où vous pourrez trouver des contacts cartes, des lieux de stage, des manuels de fabrication et d'entretien et plein de ressources utiles sur le sujet. Un réseau qui promeut l'accès de tous à ce qu'on appelle les low-tech, comme on dit, c'est-à-dire des technologies sur lesquelles on a une prise, des technologies qui renforcent notre autonomie plutôt que de nous contraindre à avoir tout autour une infrastructure que nous ne gérons pas. Dans le son précédent, Jean-Claude Mensch, maire d'Ungersheim, explique qu'une éolienne est installée sur la ferme. Et voilà une transition toute trouvée, on dirait qu'il bosse pour moi, cet homme. Pour aborder l'autonomie alimentaire, c'est parti. Eh bien, très bonne transition que vous me donnez là, puisque justement je voulais qu'on commence à parler de l'autonomie au niveau alimentaire. Alors il apparaît que vous avez une ferme municipale en régie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
C'est une ferme municipale, voilà, comme son nom l'indique, hein, c'est géré par la commune. Donc maintenant, on se dirige vers la création d'un service public administratif et qui s'appelle la ferme municipale Ungersheim, qui gère un domaine de 28-29 hectares qui n'est pas encore totalement exploité, qui sont des prairies, des bergers et de l'agriculture et du maraîchage. Le projet consiste à produire autant de nourriture, enfin la nourriture qui est dévolue à ce type de production, pour couvrir les besoins des habitants de la commune. Souveraineté alimentaire, voilà ce que ça veut dire, être moins dépendant de l'extérieur. Bien sûr, il y a d'autres fermes sur le village qui produisent de la viande, hein, du bovin, du cochon. Et puis, la régie municipale a également la production d'œufs à partir d'un poulailler mobile, en l'occurrence. C'est-à-dire, on peut couvrir les besoins des habitants de la commune en matière de nourriture, sauf que il conviendrait que les habitants achètent cette production de nourriture. Et ça, c'est loin d'être le cas, quoi. C'est là la grande difficulté de l'autonomie alimentaire. Vous pouvez être sur un territoire autonome en matière de production, mais qui n'écoule pas sa production sur la commune, puisque les habitants ont une alimentation très diversifiée et qui, en l'occurrence, achètent des produits venant parfois de très loin, de l'extérieur, ou produits qui ne sont pas produits sur la commune, produits exotiques, de l'huile d'olive, du riz, des choses comme ça, quoi.
J'avais lu qu'il était interdit de rentrer en concurrence avec des productions locales privées et que ce que vous produisez dans votre ferme municipale peut convenir notamment pour les cantines locales, voire pour les EHPAD municipaux, mais pas pour être revendu à la population.
Je connais pas cette difficulté, hein. C'est-à-dire, une commune a une compétence générale. Bien sûr, il faut motiver ses productions. Ne pas rentrer en concurrence, c'est pas vraiment le terme. Je dirais plutôt, si ce type de production n'existe pas, n'est pas couvert par le domaine marchand privé, la commune peut très bien y pallier et puis répondre à ce besoin. Par exemple, s'il n'y a pas de production maraîchère sur la commune, nous avons monté initié, favorisé, financé aussi, la création d'une épicerie. Cette épicerie pourrait très bien être gérée par la commune, ou elle est gérée par une association. Dans la mesure, le secteur privé, il est défaillant. Donc c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. À partir du moment où le secteur privé, il est absent, défaillant, le public peut très bien s'y engouffrer. Voilà, pallier.
Des produits communaux, toujours des communs, toujours cette idée. Alors pour tous ceux qui auraient l'écoute de nos soi-disant représentants et qui seraient intéressés pour favoriser l'autonomie de la population du coin, si la création d'une ferme communale vous intéresse, écoutez donc les émissions des samedis 29 novembre et 6 décembre 2025 où nous donnions la parole à un élu de Chambray-les-Tours en Indre-et-Loire, initiateur d'une ferme en régie, à Chambray-les-Tours justement. Une ferme en régie plutôt qu'en délégation de services publics. Les jardins de Vaujoubert comprendront ce que je suis en train de dire. Toujours dans l'optique de créer des communs. Parce que l'économie socialiste, je le répète, ça existe. Alors comment se concrétise la volonté de production locale ? Jean-Claude Mensch nous l'explique.
Je sais que votre idée, c'est de participer à une action qui s'appelle « Du champ à l'assiette », c'est-à-dire de faire en circuit court en sorte que les populations puissent se ravitailler à partir de ce que vous avez produit sur la commune.
La filière s'appelle « De la graine à l'assiette », filière que nous, on appelle comme ça, mais après, le champ à l'assiette, ça revient au même, quoi. Voilà, pour, par exemple, culture maraîchère ou pour certaines culture céréalière, nous sommes là plutôt dans des productions céréalières pour la nourriture des animaux consiste à produire les plants nous-mêmes dans une serre horticole, hein, voilà. Donc les plants, la culture plein champ, et puis la récolte, transformation dans une conserverie pour les produits qui sont calibrés, produits d'Imoges, etc. Donc ils sont valorisés. Pareil pour les fruits, hein. On totalise quelques 400 pommiers sur la commune. Ben, le surplus de pommes, il est transformé en jus, qui est valorisé de cette sorte, et puis vendu directement aux habitants, ainsi qu'une production de bière. Là, nous sommes en train de démarrer une culture de houblon, à partir du houblon local. Et local Oumersheim, mais par contre, le malt, il provient d'un peu plus loin, mais toujours en restant dans le département. Quand on parle du réchauffement climatique, il faut juste savoir que les aliments qui atterrissent dans nos assiettes, ils ont parcouru parfois des milliers de kilomètres avant qu'on puisse les manger. Et donc, ces kilomètres, c'est très énergivore, c'est très producteur de polluants et de gaz à effet de serre. Et en produisant et en valorisant et en achetant et en consommant local, eh bien, on évite toute cette gabegie énergétique.
Et pour acheter les produits en question, les gens de la commune ont même une monnaie complémentaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, la monnaie complémentaire, donc le radis, hein, chez nous, c'est censé être un outil indispensable de la transition écologique et qui favorise les échanges locaux. À titre d'exemple aussi, un ménage moyen, il achète pour quelques 5000 euros de nourriture par an. Comme on est environ 1000 foyers, ça fait 5 millions d'euros qui sont dépensés et essentiellement à l'extérieur de la commune parce que les habitants s'approvisionnent dans les grandes surfaces. Donc pour recapter une partie de cet argent sur l'économie locale, où c'est souvent plus difficile, hein, il faut aller à l'épicerie, il faut aller chez l'éleveur transformateur local, il faut aller chez le boulanger paysan local, mais qui n'a pas les heures d'ouverture en même temps, c'est parfois un peu plus astreignant. Mais pour recapter une partie de cet argent, là, ces 5 millions d'euros, la monnaie locale devient l'outil presque indispensable, quoi. En tout cas, c'est un outil intéressant pour le développement de l'économie locale, pour la gouvernance aussi, pour la démocratie, pour le lien social. Voilà, c'est un élément important aussi dans notre démarche.
De la graine à l'assiette. Bah ouais, je m'étais trompé, du champ à l'assiette, n'importe quoi. La cohérence demande au moins cela, produire les semences, les plants et consommer le résultat. Des productions qui peuvent être achetées en plus avec la monnaie locale, appelée le radis. Une monnaie locale ou complémentaire, qu'on appelle aussi monnaie locale citoyenne, parce qu'elle est utilisable dans un espace défini. Ces monnaies permettent de dépenser ses revenus localement en circuit court, sans thésaurisation, surtout si la monnaie est dite fondante, c'est-à-dire si elle perd de la valeur quand elle est détenue trop longtemps. Si tout ça vous intéresse, un réseau de promotion des monnaies locales citoyennes, le mouvement SOL, S-O-L, est trouvable sur les internets. Il suffit de taper dans la barre d'adresse de votre navigateur préféré, sol-réseau.org, sol-réseau.org. Jean-Claude Mensch finissait son intervention en parlant de démocratie et de lien social. Eh ouais, une nouvelle transition. Pour parler là de l'autonomie intellectuelle.
Eh bien, encore une transition. J'aurais voulu terminer avec ce que vous appelez l'autonomie intellectuelle. En l'occurrence, des démarches de démocratie participative.
Alors, la démocratie participative, ça se traduit par la concrétisation de conseils participatifs qui sont ouverts à la société civile, hein, sans autre forme de restriction. C'est par la création d'un conseil des sages, qui sont des personnes d'un certain âge, qui sont pétris de sagesse, un jury citoyen, voilà, un comité de pilotage des enfants, toute cette effervescence de rencontres, de débats est censée produire des propositions intéressantes pour le conseil municipal, qui les applique dans 90 à 95% des cas. Tous ces gens-là se sentent utiles et en même temps, on développe aussi de la démocratie participative à travers des chantiers citoyens. Donc régulièrement, il y a des chantiers citoyens où les personnes qui sont plus enclins à développer leurs facultés manuelles sont présentes, mais toujours dans l'idée de créer du lien, de se rencontrer, de partager, de s'apprécier. Et en même temps, ça permet de faire passer des messages qui concerne la transition écologique essentiellement. Voilà, la démocratie participative, c'est créer du lien social et c'est en même temps passer des messages pour essayer de s'affranchir de la société consumériste. C'est l'objectif, c'est un objectif ambitieux, je ne vous le cache pas.
Ça permet aussi de s'habituer à prendre des décisions, puisque dans une démocratie, normalement, ce sont les habitants qui décident. Alors là, ça ne peut pas être les habitants, ça doit passer forcément par le conseil municipal.
Oui, parce que les habitants sont force de proposition. Mais la décision d'application revient au conseil municipal, parfois avec certains allers et retours pour revoir certains projets. Par contre, si derrière le conseil municipal, il approuve ses propositions, vous vous rendez bien compte que ça donne de l'importance et ça démontre l'utilité de la proposition qui est faite par les habitants. Et c'est pratiquement toujours le cas.
Comme on l'a déjà dit, la Ve République française est d'essence républicaine, donc basée sur la démocratie représentative, où le citoyen est souvent réduit à un rôle d'électeur, puisqu'il n'a pas le droit de décider, ce sont ses représentants qui décident. Si des structures de prise de décision sont mises en place, pas des comités théodules de consultation, hein, comme les conseils de quartier, mais des groupes officiellement investis pour proposer des aménagements, des investissements, tout ce que fait une commune, et que le conseil municipal entérine légalement les projets décidés par des habitants, ça demande un engagement moral qu'on a du mal à trouver chez les professionnels de la politique, la démocratie devient alors une réalité. Les habitants deviennent enfin citoyens et ils font de la politique. La vraie, pas celle qui consiste à promouvoir des égos, comme il y a des gens en ce moment qui me disent « Eh, votez pour machin !» Mais c'est quoi son programme ? Vote pour machin plutôt. Qu'est-ce que j'en affiche de machin ? Et dans la démocratie, la participation des habitants aux décisions, c'est le moins qu'on puisse faire. Alors, faisons participer une dernière fois Jean-Claude Mensch pour conclure.
Nous sommes le fer de lance en quelque sorte, engagés en tant que collectivité. On s'appuie beaucoup sur le monde associatif qui est notre point d'appui et notre levier important pour créer du lien social. Et surtout, on essaye de donner l'exemple. Et comme disait Gandhi, l'exemple ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc, s'engager, c'est vraiment la solution pour pouvoir répondre aux crises qui sont déjà en train de se constituer, qui nous attendent encore plus importantes dans le futur.
L'engagement, c'est donc le leitmotiv de cette saison. À chaque fois qu'on a des intervenants, ils nous le disent, hein, que ça soit à la Ferté Bernard, que ça soit dans la coopérative Fréquence Commune, etc. Faut s'engager. Et dans une démocratie, des citoyens qui ne s'engagent pas et qui se contentent d'être des consommateurs si bien sommés de consommer, forcément, on a des tout petits soucis de démocratie dans ce genre de démocratie. Alors, c'est sympa d'avoir cité Gandhi, hein, puisque quand même, là, on réussit à partir d'Alsace, à arriver en Inde, et finalement, ce serait bien que ça s'applique dans le monde entier. En tout cas, si ça vous intéresse, eh bien, Ungersheim a un site officiel où sont présentés les différents éléments de la transition. Et puis, les différentes émissions qu'on a produites sur le sujet peuvent aussi vous servir. Attention, quelqu'un va parler. Je ne suis pas sûr que ce soit sa parole qui soit la plus importante.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Comme on est à la bourre, on vous dit juste que sur sarthe.demosphère.net, il y a plein d'informations. Par exemple, vous apprendrez qu'à 13h30, le samedi 7 mars, il y a une manifestation Place de la République contre l'intervention d'Israël et des États-Unis. En Iran, à 14h, manifestation de soutien pour les Palestiniens. Différentes manifestations tout au cours de la semaine. Et une information qui n'est pas notée au Royal, le mardi 10 mars, à 20h, un film sera projeté sur Mayotte, île sous domination. C'est donc à 20h, le 10 mars, au cinéma Le Royal, route d'Angers, comme on dit. Bon, nous, on va se quitter, parce qu'à un moment, il faut savoir dire stop. Alors, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.